Bien, bonsoir. Bienvenue pour cette séance de rentrée. Hein. Donc, il y a eu l'intermède estival et nous reprenons avec un conseil municipal relativement chargé. Donc, je vais commencer par faire l'appel et surtout lister les pouvoirs. Nous en avons pas mal. Pour des raisons de maladie, voilà, Michel Grenier-Bollet arrive, c'est parfait. Donc, ou des raisons de vendange. Donc, Sandy Muller donne le pouvoir à Marie Sabatini. Jean-Paul Jamais me donne le pouvoir. Sylvie Clémenceau, pouvoir à Corinne Martin. Bonsoir. Jean-Yves Marché donne le pouvoir à Benoît Valenzuela. Lisiane Voisin à Marité Lemaire. Nathalie Reynaud à Jean-Pierre Fenouille. Sabine Bonvin à José Garcia. Michel Turin à Nicolas Pagé. Isabelle Thomas à Jérôme Mété, Catherine Sdib à Pierre Brunier. Voilà, donc nous avons le quorum, l'Assemblée va pouvoir valablement délibérer. Je propose comme secrétaire de séance Madame le maire. Pas de remarques particulières, acceptez, je vous remercie. Je mets à l'adoption le compte rendu du dernier conseil. Pierre.
Oui, à propos du compte rendu du dernier conseil qui reflète exactement les décisions qui ont été prises, nous avons décidé malgré tout de voter contre son adoption pour une raison simple, c'est qu'en définitive, ce procès-verbal de séance ne reflète en rien les échanges qui se passent lors du conseil. Donc c'est un document, on va dire, statistique, mais on aimerait quand même que le règlement revienne, comment dire, un règlement qui permette justement de relever un petit peu les échanges. Sinon, ça n'est pour nous pas un compte rendu. Voilà, donc c'est une observation que nous voulions faire avant le début de la séance.
Non, je relève donc que tu es d'accord sur le contenu du compte-rendu, mais tu ne le votes pas. Bon, donc contre ou abstention?
Alors, on est contre.
Contre. Bon, donc contre, il y a des abstentions. Majorité, je vous remercie. Bien, donc, en ouvrant ce conseil municipal, après, bon, nous avons 17 points à l'ordre du jour. Je vous expliquerai tout à l'heure qu'il y en a 16, le 17e va être retiré. Je voudrais adresser à nouveau mes félicitations à Mme le maire qui est à ma droite et qui hier a reçu les insignes de la Légion d'honneur. Ça s'est passé dans cette salle, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans notre petite allocution, c'est quelque chose qui honore elle, sa famille, notre conseil et notre village. Voilà, donc il y avait beaucoup de monde pour marquer cet événement. Voilà, donc on a cette année deux récipiendaire, puisque on a eu le cas quelque temps avant, et Madame Parel, qui était d'ailleurs présente. Voilà. Donc, je voulais vous donner mes félicitations et les félicitations du conseil municipal. Bien. Je prends les points de l'ordre du jour. Le premier point et le second, d'ailleurs, bon, donc, sont un peu dans le même ordre d'idées. Ils concernent l'adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement pour le premier. Et ça concernera l'eau potable pour le second. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent. Donc, chaque année, on nous fournit le compte-rendu, notre prestataire nous fournit le compte-rendu concernant les services, puisqu'il y a une DSP donc qu'il accomplit au niveau de la commune, qui comprend l'élément quantitatif et qualitatif, combien on a consommé d'eau, combien ça coûte, quels sont les efforts faits par la commune en matière d'équipement, enfin d'investissement, etc. Et ceci est centralisé, donc c'est ça figure sur Internet. On le retrouve tous les éléments sur le plan national et sur le plan local. Voilà. Je vous étiez invité à aller le consulter pour ceux qui le voulaient. Donc c'est un point. Enfin, je vous lis les éléments puisque dans ce genre d'éléments on ne vote pas, on prend acte. Bon, je dirais simplement que si vous avez rendu un petit peu le dossier, et si je rejoins les deux dossiers de l'eau et l'assainissement, nous sommes dans un ordre de tarif qui est, on est à, pour être clair, 3,80 € le mètre cube sur une base d'un foyer moyen à 150 mètres cubes annuels. Donc, si l'on regarde la partie nationale, on est dans un bon dosage. Ce qu'il faut surtout voir aussi, c'est derrière, au-delà du tarif, ce sont les prestations fournies, et sur le plan courtisan, on investit beaucoup dans ce domaine-là. Vous aurez l'occasion aussi d'y revenir dessus, puisque vous avez constaté dans le jour qu'on va transférer cette compétence au niveau de l'intercommunalité. Alors, monsieur le maire rappelle que le Code général des collectivités territoriales impose par son article L22-24-5 la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif. Ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. En application de l'article du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours par voie électronique au préfet et au système d'information prévu du Code de l'environnement. Ce SISPEA correspond à l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le site www.service.eaufrance.fr. Le RPQS doit contenir à minima les indicateurs décrits en annexe du CGCT. Les indicateurs doivent en outre être saisis par voie électronique dans le même délai de 15 jours. Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement. Après présentation de ce rapport, voilà, je viens de résumer qui était à votre disposition. Le conseil municipal prend acte de ce rapport du prix et de la qualité du service, décide de transmettre au service préfectoral la présente délibération, décide de mettre en ligne le rapport, décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. Voilà, ça c'était le premier document qui concernait l'assainissement. Et je passe au second qui est dans le même esprit, ce qui concerne l'eau potable. Monsieur le maire rappelle que le Code général des collectivités impose, par son article L22-24-5, la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau. Ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. En application de l'article du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours par voie électronique au préfet et au système d'information prévu. Ce SISPEA correspond à l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Le RPQS doit contenir à minima les indicateurs décrits au CGCT. Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'Observatoire national. Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, ici présent, prend acte du rapport sur le prix et la qualité du service public, décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération, décide de renseigner et de publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. Voilà, donc nous avons pris acte de ces 2 points. Je rappelle, on va y revenir dessus, qu'ensuite nous allons transférer cette compétence au assainissement qui deviendra une compétence intercommunale. C'est le point qui suit, modification des statuts de la CCPO, transfert de la compétence eau et assainissement au 1er janvier 2019. C'est un point qui a déjà été étudié. Je lis le projet de délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi NOTRe du 8 août 2015, vu les statuts de la CCPO modifiés par arrêté préfectoral du 4 mai 2018, dans le cadre du transfert aux intercommunalités des compétences eau et assainissement, le Conseil de communauté avait, par délibération du 3 juillet 2017, approuvé la mutualisation d'un agent communal de la ville de Courthézon, spécialisé dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, afin d'appréhender le périmètre du futur service, réaliser un diagnostic technique et financier complet et élaborer les scénarios d'exercice des compétences transférées. Ça signifie que nous avons un technicien qui est technicien de la commune de Courthézon, qui est un ingénieur hydraulique, qui s'appelle Thomas Troupin, et qui, donc, depuis cette convention, partage son temps de travail entre la mairie et la CCPRO pour faire un diagnostic, parce que on s'est dit que c'était important, en transférant une compétence, il fallait qu'on voit quand même quelle était la situation de chaque commune en matière de réseau d'eau et d'assainissement. Pour être concret, ça signifie aussi quelle est la situation de chaque station d'épuration, quels seront les travaux qu'il faudra faire éventuellement dans telle commune ou dans telle commune. En date du 13 novembre 2017, le diagnostic a été restitué aux communes membres réunies en comité de pilotage. Il concluait à une relative homogénéité des services publics locaux exercés en propre par les communes au regard des différentes dispositions contractuelles de la structure tarifaire. La CCPRO propose de fixer la date de transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2019. À cet effet, le chef de projet travaille à l'accomplissement des études communales préalables, à l'établissement de maquettes consolidées pour les futurs budgets annexes communautaires de l'eau et de l'assainissement, au maquettage du futur service communautaire qui devrait se composer de 3 agents correspondant exclusivement à des ressources transférées. Cette décision passe par une refonte statutaire de la CCPRO sur laquelle les communes ont 3 mois pour se positionner avant l'intervention de l'arrêté préfectoral. Le conseil municipal, il y a eu l'exposé du maire et après avoir délibéré, donc c'est l'objet de cette délibération, approuve le transfert de la compétence eau et assainissement à la CCPRO à la date du 1er janvier 2019, autorise monsieur le maire à signer toute pièce relative à la présente délibération. Pierre.
Oui, je voudrais faire une observation à ce sujet en disant que l'intercommunalité, ce n'est pas une compétence obligatoire. Hein, donc, si j'ai bien lu effectivement les documents qui nous étaient remis, partant de là, moi j'estime qu'il serait, enfin nous estimons plutôt qu'il serait souhaitable peut-être de rester sur le statu quo actuel, de manière à ce que dans l'avenir, on ne soit, si on devait décider de passer l'eau en régie, que ça puisse effectivement se faire dans de bonnes conditions et que les concitoyens puissent s'y retrouver au niveau des prix. Donc voilà, nous c'est l'observation que l'on formule à ce sujet en disant, si on transfère la compétence, comment fait-on pour en sortir si on veut revenir en arrière de manière à ce que une régie puisse faire bénéficier les résidents de Courthézon de meilleurs prix.
Donc j'ai déjà répondu à cette sollicitation en expliquant que un travail en régie dans ce domaine d'activité, et on l'avait étudié, n'est pas envisageable dans la mesure où c'est un domaine d'activité qui requiert plusieurs compétences. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fonctionne dans des très grandes collectivités où ils ont des techniciens dédiés pour telle spécialité, telle spécialité, telle spécialité. Nous, ce qui fait qu'aujourd'hui notre prestataire, Suez, eh bien, l'avantage, c'est qu'à un moment, il nous envoie un ingénieur pour telle opération, ça le regarde. Si nous, nous prenons en régie, on va pas embaucher 6 personnes pour quelqu'un qui va travailler 1 heure dans la journée, parce qu'après, c'est plus de sa compétence. Il y a un deuxième point qui t'a échappé et qui est, ah ben Sabine, voilà, j'avais pris le pouvoir, mais elle me dit qu'elle nous rejoindrait quand elle pourrait, merci Sabine. Il y a un deuxième point qui est quand même énormément à prendre en compte, c'est que l'État, qui fait des économies de partout, avait retiré des dotations à notre intercommunalité, en nous disant, eh bien écoutez, vous n'avez pas assez de compétences. Bon, on a, en incluant la compétence eau assainissement, on rentre à nouveau dans le giron du nombre de compétences, et au niveau de notre DGF bonifié, cela fait gagner 500 000 euros à l'intercommunalité. Moi, je me baisse pour beaucoup moins que ça. Donc, concrètement, On ne l'a pas fait que pour ça, mais c'est un argument qui a sa signification. Ça signifie que désormais, chaque année, on retrouve les 500 000 euros qui nous avaient été retirés parce que on nous reprochait de ne pas avoir assez de compétences. On les avait au départ. C'est l'État qui avait mis le curseur plus haut. Donc, il a mis plus haut. Nous le mettons aussi à ce niveau-là. Donc, sachez-le, ça nous permet, au niveau de l'Interco, d'avoir cette recette. Donc, il y a deux bons éléments qui justifient, franchement, cette décision. Je mets aux voix.
Une petite observation malgré tout sur le fait que les régies, c'est pas forcément les grandes communes, hein. Je crois que Sarrien est en régie. Bon, après, sur le plan du gain, il me semble qu'au final, les courtes zonées seraient peut-être mieux loties si on revenait à une régie municipale. Voilà.
Toujours facile de vendre du vent, Jérôme.
En l'occurrence, c'est de l'eau.
Voilà.
Oui, merci Alain de me donner la parole. Nous, notre réflexion, c'était, quand on a lu cette délibération, c'était de se demander quel était l'intérêt finalement pour la commune de faire ça. Bon, tu as répondu, tu as expliqué un petit peu quelles avaient été les motivations de ce choix. Parce que à chaque fois qu'on a abordé des délibérations qui parlaient de l'assainissement ou de l'eau potable, ou même des budgets, ça a toujours été présenté comme quelque chose qui fonctionnait plutôt très bien, qui donnait satisfaction, qui dégageait du bénéfice, qui permettait à la commune de faire de l'entretien, de l'investissement. Je pense par exemple au renouvellement de tout ce qui était canalisation, plomb et tout ça.
Ce qui ne changera pas d'ailleurs. Ce qui ne changera pas, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà.
Bah, c'est un peu pour ça que je prends la parole. Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, on transfère, si tu veux, la compétence. Donc moi, j'y vois, je dirais, un inconvénient, c'est que ça donnera plus l'objet de délibération au sein du conseil municipal entre une majorité et une opposition. Donc, bon, finalement, on perd un peu la vision là-dessus sur en tant qu'opposition sur ces sujets-là. D'un autre côté, effectivement, aujourd'hui, à chaque fois qu'on est confronté à une compétence de CCPRO, quand on en parle ici, on dit que c'est la solution de facilité, c'est de dire aussi c'est la compétence de la CCPRO. Donc on voit qu'on n'a pas toujours la main mise, il y a plusieurs communes, il y a plusieurs intérêts, il y a des budgets à respecter. Demain, ce qu'on voulait dire, c'est que on n'est pas contre ce transfert, on va plutôt s'abstenir, parce que justement, ce qu'on voudrait voir sur le retour, sur l'avenir, c'est que on n'en pâtisse pas. Ah. C'était quelque chose qui fonctionnait bien, on ne comprend pas trop pourquoi on se sépare finalement de quelque chose qui fonctionne bien. Qu'on se décharge de quelque chose qui marche pas bien pour que ça marche mieux, d'accord, et quand ça marche bien, voilà.
Tu as bien compris que l'État va multiplier les actions pour que tout soit... Il est même question de ne plus avoir de communautés de communes, mais des communautés d'agglomération, et plus de communautés d'agglomération, mais carrément des structures beaucoup plus importantes. Donc, et on est un peu aussi avec le couteau sous la gorge, puisque on nous... Voilà, ou on nous le rend obligatoire, ou on nous dit, ben, bon, comme vous voulez, mais on vous supprime, ou bien, c'est la carotte ou le bâton. Et mine de rien, je suis autant... Là, j'ai ma casquette président de la CCPRO, je suis autant vigilant sur les budgets de la commune que celui que je le suis au niveau de l'Interco. Et encore une fois, c'était pas du symbolique. Quand on a perdu ces 500 000 euros, ça nous a pas fait rire. Quand on a vu que, par le biais de l'eau et l'assainissement, on l'aurait pas fait. En se disant, on le fait que pour les 500 000 euros, c'était pas le cas. Mais dans la mesure où on s'est aperçu qu'il y avait quand même une cohérence, parce que il y a des réseaux qui sont, par exemple, Cadrousse et Orange ont un système de connexion partagé. Si on réfléchit bien, la station d'épuration de Courtaison dessert la zone d'activité de la Grange Blanche qui est totalement intercommunale. Donc, il y a quand même beaucoup de cohérence qui font que, d'ailleurs, même aujourd'hui, notre ingénieur était tout un temps courtisonné, devenait de plus en plus CCPRO. Donc, il y a en même temps une certaine cohérence dans cette réflexion.
Jérôme ? Allez, oui. Moi, je voulais également... évidemment, on va s'abstenir. En revanche, j'espère que ça ne nous empêchera pas d'étudier la possibilité dans la CCPRO, éventuellement, de venir en régie un jour, parce qu'il est quand même prouvé aujourd'hui, pour certaines tailles, et je pense que la taille serait... étant plus grand, il y aurait peut-être un moyen de mutualiser et de partager les frais, parce que pour l'utilisateur, au final, il s'avère quand même qu'en moyenne, les régies sont moins coûteuses. Voilà, c'est ma petite observation.
C'est la question que j'évoquais tout à l'heure en répondant à Pierre, et donc le fait d'avoir une structure plus importante peut beaucoup plus facilement peut-être valoriser le fait que ça peut être étudié par la régie. Je mets aux voix, qui est contre ? 2 plus 1 pouvoir. Abstention ? Voilà. 3. Majorité, je vous remercie. Le dossier suivant concerne le budget pour une opération qui est un peu classique aussi. Vous savez que lors de la fête votive, la mairie s'associe aux manifestations en participant financièrement à quelques en aidant des associations. On avait discuté de ce point, comme on le fait chaque fois, au niveau de la commission des finances. Pendant des années, il y a eu 4 associations, donc qui étaient la pétanque, la lyonnaise, la pêche et la chasse. On a retiré la chasse parce que on nous avait fait remarquer que à la chasse, la fête votive, qui consiste au baltrap, était sous-traitée par un opérateur et que donc du coup finalement, on ne voyait pas pourquoi leur donner de l'argent si c'est pour qu'eux passent avec un opérateur différent. J'ai vu le président de la chasse qui est venu me dire qu'il m'a montré les éléments en me disant « mais nous, on le fait avec des amis, mais c'est une opération qui est totalement intégrée dans notre... D'ailleurs, j'ai vu leur compte rendu financier, on prend les recettes, on prend les dépenses à la sortie. Bon. » Donc du coup, j'ai dit « pas non plus faire d'obstruction, quelque chose qui est devenu un peu rituel. » Donc, si vous voulez, l'opération... va être validé pour les, non plus pour les 3, en fait c'est l'objet du vote, mais pour les 4. Alors la commune de Courtaisan a pour l'habitude de verser une subvention exceptionnelle aux associations ayant participé à la fête votive. Le versement de cette subvention nécessite réglementairement une délibération pour l'année 2018. Il est proposé au conseil municipal de procéder à l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 350 € au bénéfice des 4 associations suivantes, engagées lors de la fête votive 2018. Donc l'Amicale Union Bouliste, la Lyonnaise, les Amis de la Seille, le Sponic Boule et donc les Amis de Saint-Hubert. Le conseil municipal y a eu l'exposé du maire et après avoir délibéré, objet du vote, décide d'accorder une subvention exceptionnelle de 350 € au bénéfice de chaque association, approuve le montant de ces subventions exceptionnelles, dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2018. Je mets aux voix qui est contre. Abstention, unanimité, je vous remercie. Je prends le point, Thierry, qui c'est qui est président de la pétanque? Eh ouais, je vais te dire, tu ne devrais pas prendre... Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, on dit que tu ne prends pas part au vote, d'accord? Ok. Ensuite, je prends le point suivant... Bon, c'est quelque chose qui est récurrent. On est obligé de passer un conseil municipal. Ça concerne même pas, ça concerne les enseignants pour l'indemnité, de logement. C'est quelque chose qui se pratiquait au moment où les enseignants étaient logés et que si on les logeait pas, on leur donnait une indemnité. Aujourd'hui, ce sont des professeurs des écoles. Les professeurs des écoles n'ont pas à être logés. Donc, du coup, et on a que les professeurs des écoles, donc on n'a pas d'indemnité à donner. Mais il faut quand même le passer à un conseil municipal. Alors, voilà, on va le faire, hein, donc. Les communes sont tenues de mettre à disposition un logement convenable à disposition des instituteurs qui en font la demande. À défaut, ces derniers bénéficient d'une indemnité compensatoire. Par courrier du 30 juillet 2018, le préfet fixe à 2297,45 € le montant annuel de base de l'indemnité à verser aux instituteurs non logés ayant droit. Cette indemnité est prise en charge par l'État. Toutefois, les instituteurs bénéficient de la majoration de 25%. Percevront une indemnité de logement de 2871,81 €, imposant une contribution communale annuelle par instituteur ayant droit à cette majoration de 63,81 €. Il convient de prendre de cette participation communale et de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget. Bien entendu, tout instituteur refusant un logement convenable perd de fait tout droit au bénéfice de cette indemnité. Alors, vu les articles du Code éducation, les articles du CGCT, l'arrêté, vu le courrier de la préfecture de Vaucluse du 30 juillet 2018, le conseil municipal, ayant eu l'exposé du maire et après avoir délibéré objet du vote, fixe la contribution communale au titre de l'indemnité à 63,81 €, c'est la part qu'on devrait donner pour se rajouter à la part de l'État, dit que les crédits sont inscrits au budget, rappelle que tout instituteur refusant un logement convenable proposé par la commune perd de fait tout droit au bénéfice de cette indemnité. On n'est pas concerné. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Unanimité, je vous remercie. Le point 6 concerne la renégociation d'emprunts communaux. Je vous explique, nous avons un service financier qui fonctionne bien, et j'en rends hommage à toute l'équipe, à Isabelle, qui aujourd'hui a des soucis de santé, mais qui lui souhaite un bon rétablissement d'ailleurs. Donc, et Isabelle m'a soulevé, bon, on a, vous savez, je rappelle quand même que depuis des années, on n'emprunte pas. Bon, et donc, on a quand même, et beaucoup d'emprunts arrivent à échéance. Bon, on a quand même audité la situation de nos emprunts actuels, et on a pris contact avec tous nos organismes prêteurs. Bon. Et donc, dans l'immédiat, on est sur 6 et peut-être 7 emprunts qui sont en train d'être renégociés et qui nous permettraient, voilà, tous les éléments pris en compte, donc des fois il y a une pénalité, des fois il n'y en a pas, etc., de faire une économie de l'ordre de 32 000 euros. J'explique parce que là, la délibération vise à instituer le principe de ça. Après, c'est quelque chose qui fait l'objet d'une décision du maire, hein, donc à la limite, voilà, mais je tenais à vous le dire, voilà, c'est-à-dire là, on délibère pour dire effectivement, on va renégocier des emprunts, et puis, bon, je vous tiens au courant, mais donc on est en train de formaliser les opérations, et ça nous permet de faire une réduction qui est soit dans les sommes, soit dans le fait de rapprocher l'écoulement de l'emprunt en disant eh ben écoutez on vous le réduit et vous serez votre emprunt arrivera à terme par exemple 6 mois avant ou 1 an avant comme c'est proposé des fois des particuliers. Alors je lis renégociation d'emprunts communaux vu le code général des collectivités territoriales et notamment ces articles 21-22 considérant l'importance qui s'attache à l'obtention d'une réduction des frais financiers que supporte la commune au titre des emprunts qu'elle contracte ou qu'elle a contracté pour le financement de ses investissements, considérant que sont désormais accessibles aux collectivités territoriales des techniques financières permettant de réaliser ses objectifs, considérant que du fait de la rapidité des évolutions constatées sur les marchés financiers, il est souhaitable de pouvoir mettre en œuvre des techniques dont les délais aussi réduits que possible afin d'en retirer l'efficacité maximale, le conseil municipal, ayant vu l'exposé du maire et après avoir délibéré sur l'objet, adopte le cadre de l'intervention suivant. Article 1er. Les opérations de renégociation incluses dans ce cadre d'intervention sont définies comme suit. Modification du type de taux. Réduction de la valeur nominale d'un taux. Modification de l'index de référence. Modification de la fréquence d'amortissement. Modification de la devise. C'est pas notre cas. Modification de la durée d'amortissement. Modification des conditions de remboursement anticipé. Article 2, une opération de renégociation peut porter simultanément sur un ou plusieurs des paramètres énumérés à l'article 1er et peut être obtenue par tous les moyens appropriés, notamment par application d'une clause contractuelle, par avenant au contrat initial, par remboursement anticipé, par rachat par un tiers du contrat, par adoption d'un contrat de couverture du risque au moyen d'instruments tels que les SWAP ou les CAP. L'article 3. Le maire est habilité à effectuer toutes les démarches, à signer tout document et à ordonnancer tout mouvement de fonds rendu nécessaire par des opérations de renégociation. Article 4. Dit que dans le cas où une opération de renégociation se traduirait par le remboursement anticipé d'un emprunt ancien et la souscription d'un nouveau, les règles suivantes sont applicables. Le montant de l'emprunt de substitution ne peut excéder celui du capital remboursé par anticipation, majoré des pénalités éventuelles, arrondies au maximum à la centaine de milliers de francs supérieurs. Le refinancement de l'emprunt ainsi remboursé ne peut avoir pour effet d'augmenter les frais financiers qui auraient été dus si celui-ci avait été amorti jusqu'à son terme, ce qui est de bon sens. Article 5. Les inscriptions budgétaires, tant en dépenses qu'en recettes, rendues éventuellement nécessaires par l'application des dispositifs qui précèdent, sont effectuées dès la première décision modificative intervenant après une opération de renégociation et sur les crédits du même exercice sur celle-ci. Sur lequel celle-ci aura été réalisée. Voilà, donc je vous ai expliqué, là, on donne bien la trame de l'opération, c'est pas ciblé sur tel et tel, et par la suite, eh bien, ça y est, les opérations sont en train de se réaliser, mais on voulait, voilà, communiquer sur cette formule. Je mets aux voix, qui est contre? Abstention. Majorité, je vous remercie. Le point 7, mise en place de la commission de contrôle de la liste électorale. Donc, ben, vous allez tout comprendre dans la délibération. Hein, jusqu'à présent, on fonctionnait avec une liste électorale. L'État a décidé de modifier les choses. Bon, mais en attendant, il y a encore une dernière commission qui doit se tenir. Et pour cette commission, il a fallu faire en quelque sorte une réactualisation. La loi du 1er août 2016 réforme intégralement les modalités de gestion des listes électorales et crée un répertoire électoral unique et permanent, REU, dont la tenue est confiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques, donc l'INSEE. Cette réforme conduite par le ministère de l'Intérieur entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Elle met fin au principe de la révision annuelle des listes électorales. Ces dernières seront dorénavant permanentes et extraites du REU, qui les centralisera en améliorant la fiabilité. Cette réforme facilite également l'inscription des citoyens sur liste électorale en permettant leurs inscriptions jusqu'à quelques semaines avant le scrutin. Avant, vous savez, il y avait des plages. Les maires se voient transférer en lieu et place des commissions administratives qui sont supprimées, la compétence pour statuer sur les demandes d'inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour demeurer inscrits. Un contrôle a posteriori sera opéré par des commissions de contrôle créées par la loi. Le rôle de ces commissions sera d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés par les électeurs concernés contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation du maire et de contrôler la régularité de la liste électorale entre le 24e et le 21e jour avant scrutin ou à l'absence de scrutin au moins une fois par an. Pour cette dernière révision annuelle des listes électorales, il conviendra de réunir du 1er septembre 2018 au 9 janvier 2019 les commissions administratives afin d'instruire les demandes d'inscription et les radiations de l'année 2018 dans les conditions prévues par la circulaire du 25 juillet 2013, toujours dans l'intériorité. La commission se réunira une dernière fois le 9 janvier 2019 pour dresser et publier le tableau contenant les additions et les retranchements apportés à la liste électorale. Cette étape marquera la fin à la fois de la dernière procédure de révision annuelle et de l'existence de cette commission. À partir du 1er janvier 2019, toute demande d'inscription ou toute procédure de radiation sera traitée selon les nouvelles modalités issues des lois du 1er août 2016 et de leurs décrets d'application. Les membres de la commission de contrôle, prévus par l'article du nouveau code électoral, sont nommés par le préfet au plus tard le 10 janvier 2019, selon les modalités précisées dans le nouveau code électoral. Concernant la commune de Courthézon, la commission est composée de 5 conseillers municipaux, dont 3 conseillers appartenant à la liste ayant obtenu lors du dernier renouvellement le plus grand nombre de sièges, les 2 autres conseillers appartenant respectivement aux 2e et 3e listes parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. Liste des conseillers municipaux de la commission de contrôle sera transmise par le maire au préfet. Vu la loi du 1er août 2016, considérant la circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme de cette REU, il est proposé à l'Assemblée délibérante de valider la composition de la commission de contrôle des listes électorales, générales et complémentaires telles que représentées par les listes issues des dernières élections municipales de 2014. Donc, comme je le disais dans le préalable, 3 membres pour la liste Courthézon avant tout, qui seront Sabine Bonvin, Xavier Moureau et Christiane Picard. 1 membre pour la liste Une Nouvelle Dynamique pour Courthézon, que j'ai sollicité, Pierre Brunier s'est porté volontaire. Et 1 membre pour la liste Courthézon Ensemble, que j'ai sollicité aussi, et c'est Jérôme Mété qui s'est désigné. Le conseil municipal, ayant oui l'exposé du maire et après en avoir délibéré, objet du vote, approuve la liste des membres prêts à participer aux travaux de la commission, autorise le maire à transmettre à monsieur le préfet la liste des conseillers municipaux de la commission de contrôle, dit que la commission administrative se réunira une dernière fois le 9 janvier 2019, dit que les membres de la commission de contrôle seront nommés par le préfet au plus tard le 10 janvier 2019, dit qu'à partir du 1er janvier 2019, toute demande d'inscription, toute procédure de radiation sera traitée selon les nouvelles modalités issues des lois du 1er août 2016 et de leurs décrets d'application. C'est ainsi, je mets aux voix qui est contre. Abstention, unanimité, je vous remercie. Le point suivant, concerne le règlement général pour la protection des données, le RGPD. Ça, c'est encore quelque chose, voilà, qui vient de nous sortir. Bon, on est plus sensibilisé au CNIL, vous savez, donc là, bon, l'État met encore un millefeuille supplémentaire. Et vous allez le voir dans les libérations, on s'est dit que c'était quelque chose qui valait la peine d'être traité au niveau global, communes, intercommunalités, centres sociaux, etc., puisque de toute façon, il faut recourir à des prestataires, et comme à foi, eh bien, plus on peut mutualiser ses dépenses, mieux c'est. Le règlement européen du 27 avril 2016 dit règlement général pour la protection des données personnelles, RGPD, est applicable depuis le 25 mai 2018. Sa transcription en droit national a été assurée par la loi relative à la protection des données personnelles du 20 juin 2018, remplaçant la loi informatique et liberté qui datait de 1978. Il apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes, amendes administratives qui peuvent aller, écoutez bien le chiffre, jusqu'à 20 millions d'euros conformément aux articles du RGPD. Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et les dites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission présente un intérêt certain. La commune a demandé le 19 juin 2018, par une note de service à l'attention de l'ensemble des agents administratifs, de procéder au recensement des traitements de données personnelles détenues par chacun afin d'établir une cartographie des bases de données utilisées. Par délibération du 5 juillet 2018, la CCPRO a acté l'intention de s'engager de manière mutualisée et innovante dans une réponse territoriale externalisée conforme au RGPD et en définir les modalités. Afin de limiter l'impact budgétaire, tout en répondant aux exigences légales, la CCPRO propose un engagement largement mutualisé. CCPRO, commune membre, office de tourisme, CCAS du territoire, voire EPCI voisins et leurs communes membres. La rédaction d'un cahier de charges par les directions des systèmes d'information de la CCPRO et de la ville d'Orange visant une démarche pilote d'intelligence collective et de développement durable. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi relative à la protection des données, vu la délibération du 5 juillet 2018, considérant l'intérêt d'inscrire le déploiement de cette démarche RGPD dans un cadre mutualisé, considérant, et c'est là qu'on est directement concerné dans la délibération, qu'il convient de désigner un représentant de la commune au groupe de travail, représentant étant un élu ou un technicien, monsieur le maire propose à la délégation de madame Bernol, puisque c'est elle qui est dans ce domaine-là aujourd'hui, le conseil municipal, il y a où l'exposé du maire, et qui accepte d'ailleurs, le conseil municipal, il y a où l'exposé du maire, et après en avoir délibéré, objet du vote, approuve l'adhésion de la démarche RGPD dans un cadre mutualisé, désigne en qualité de représentant de la commune madame Bernol pour participer au groupe de travail, autorise monsieur le maire à signer toute pièce rapportant à la présente délibération. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne le lien que nous avons entre la CCPRO et la mairie pour les temps salés. Je vous l'explique. Donc, les temps salés fait partie des zones humides et donc maintenant de compétences intercommunales. Lorsque nous avons transféré, donc en janvier, les zones humides, la mairie de Courthézon assurait l'entretien de l'étang salé avec un agent, François Gauthier pour le citer, qui consacre un certain nombre d'heures à l'entretien de l'étang salé. Bon, dans la mesure où ce point a été transféré au niveau de l'interco, on avait validé le fait, et on l'avait acté, que François Gauthier poursuivait son activité à l'étang Salé, mais la mairie facturait sa prestation, puisque désormais, à la CCPRO, puisque désormais, c'est de compétence intercommunale. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Sauf que nos services espaces verts sont énormément sollicités, donc, et parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts à entretenir, parce que tantôt c'est pour le cimetière, enfin tantôt chacun regarde son pré carré, bon, bientôt on va demander d'aller enlever les brins d'herbe dans la cour privée des gens, enfin c'est encore un autre discours, donc on s'est dit que ben, autant récupérer François Gauthier. Donc nous avons rencontré la DGS, entre DGS avec Nathalie Emba et Cécile Guézon, on a rencontré les services dédiés, on leur a dit, ben écoutez, c'est pas compliqué, on récupère, donc, hein, du coup, bien entendu, on vous facturera plus la prestation de François, et de son côté, la CCPRO est déjà en train de s'organiser pour que des agents de la CCPRO aillent entretenir cet espace, comme ça existe aussi, puisqu'il y a une deuxième zone similaire qui est sur Orange, et où la CCPRO assure l'entretien. Pour l'information complète, pour le cas où ça vous interpellerait, il y avait deux prestations. Il y avait la prestation espace vert et la prestation, je dirais, ménage. Vous avez vu qu'il y a des toilettes sèches là-bas. Donc, donc il y a une prestation qui se fait par nos agents pour aller de temps en temps assurer l'entretien. Bon, cela, on l'a conservé parce que c'est quand même beaucoup plus commode que ce soit un agent qui vient d'Orange pour demi-heure de prestation. Donc, si vous voyez un agent de la commune là-bas, c'est dans le cadre des prestations qui sont actées et qui sont conservées. Dans le cadre de la gestion et l'entretien courant des zones humides, présentes sur le territoire de la commune de Courthézon, par délibération du 12 juillet 2018, il a été conclu une convention de mise à disposition de services entre la ville de Courthézon et la CCPRO. Comme le prévoit l'article 6, la convention est conclue pour une durée d'une année à compter du 1er janvier 2018, renouvelable de manière tacite jusqu'à sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties. Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment par simple décision de l'exécutif de l'une ou l'autre des parties signataires agissant en vertu d'une délibération exécutoire notifiée au moins 3 mois avant l'entrée en vigueur de cette résiliation. Constatant que cette mise à disposition de services pose des problèmes organisationnels au niveau du service technique espace vert, compte tenu de l'application de la loi interdisant les produits phytosanitaires et la volonté de la commune d'œuvrer pour le fleurissement du village, il convient de revoir celle-ci. En clair, ça veut dire que, ben, vous savez bien, aujourd'hui on n'a plus le droit d'utiliser des désherbants, là où on désherbait le parc une fois dans l'année, on n'en parlait plus, on doit y passer toutes les semaines. C'est ce que je veux dire, c'est devenu très chronophage. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de valider la dénonciation de la partie de la convention concernant le service technique espace vert à la date du 31 décembre 2018. Pour mémoire, la mise à disposition du service technique espace vert se présentait ainsi. Le service technique espace vert de la commune a raison de 3,89 heures par semaine, soit 202 heures par an, correspondant à la mise à disposition d'un agent technique polyvalent de catégorie C, et un agent d'encadrement de catégorie B pour effectuer les tâches détaillées dans les tableaux ci-dessous. Pour l'étang Salé, 150 heures par an, pour le bois d'Énonciade, 40 heures par an. La mise à disposition concernant le service technique ménage et le service foncier est en reconduit en l'état. J'ai oublié, il y a aussi un troisième service qui fonctionne, effectivement. Donc c'est notre service urbain, service foncier, qui garde la maîtrise. Et là, c'est normal, si vous voulez, parce que nous sommes sur place. Donc, lorsqu'il y a une opportunité pour un terrain dans la zone des Torres et Palus qui se vend, le service foncier est en alerte et donc et signale que c'est quelque chose qui ne doit pas partir. D'autant plus qu'on sait souvent quelle est la destination de ces terrains du côté des Torres et Palus. Le conseil municipal, il y a oui exposé du maire et après en avoir délibéré. Objet du vote, approuve la dénonciation de la partie de la convention concernant le service technique espace vert, dit que la convention de mise à disposition sera conduite et portera à partir du 1er janvier 2019 uniquement sur le service technique ménage et le service foncier et urbanisme, autorise Madame le maire Étant donné que moi je suis président, la CCPO a signé toute pièce rapportant à la présente délibération. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Point suivant. Donc, c'est une décision qui est rapide, mais on en avait joint le règlement qui... c'est un règlement concernant le marché de Noël. De manière à encadrer le marché de Noël, il convient de définir plus précisément les conditions et modalités de son organisation en mettant en place un règlement propre à la manifestation. Vous allez avoir deux points. Ici, c'est le règlement. Le deuxième, c'est les tarifs appliqués aux gens qui viennent donc y participer. Donc, ce règlement... Ben, insiste sur, en particulier, le fait que les exposants présentent des tables qui sont dans l'esprit du marché de Noël, voilà. Donc, le gardiennage, il y a des éléments qui nous sont propres à nous, les heures d'arrivée, voilà, donc ça sont des éléments qui seront soumis à chaque exposant. Donc, le conseil municipal, et il y a où l'exposé du maire, enfin, qui vous dit, ben voilà, il y a un règlement à voter, et après en avoir délibéré, approuve le règlement interne du marché de Noël tel qu'annexé à la présente délibération. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Unanimité, je vous remercie. Toujours dans la culture, et c'est très rapide aussi, là ça concerne de manière bien ciblée le tarif, de manière à permettre le recouvrement des droits de place par la régie culturelle, il convient d'adopter les nouveaux tarifs qui seront appliqués aux exposants dans le cadre du marché de Noël, qui se tient chaque année sur la commune. Pour les exposants courtaisonnés, 30 euros. Pour les exposants extérieurs, 45 euros. Le conseil municipal, ayant oui l'exposé du maire et après avoir délibéré, objet du vote, fixe les tarifs de l'emplacement du marché de Noël, 30 euros pour les courtaisonnés et 45 euros pour les extérieurs. Je mets aux voix qui est contre. Abstention, unanimité, je vous remercie. Enfin, jeunesse, écoute, j'ai envie de boire un coup, tu vas le dire, s'il te plaît. Prends le micro.
Alors, bonsoir à tous. Dans le cadre du jumelage, l'accueil jeune et le centre de loisirs organisent du samedi 20 au mercredi 24 octobre 2018 un séjour de 5 jours en Alsace à Bergheim. Ce séjour offre une capacité d'inscription de 15 places et mobilisera deux animateurs, dont un bénévole et un directeur. Le coût total du séjour est estimé à 6500 euros, soit un prix de revient moyen par enfant de 433,33 euros. La CAFMSA participe à hauteur de 1785 euros. La participation des familles est déterminée en fonction du quotient familial, 125 euros pour le premier, 137,50 € pour le deuxième, 150 € pour le troisième, soit une participation parentale moyenne de 137,50 €. Le comité de jumelage participe, lui, à hauteur de 500 €. L'AJC participe à hauteur de 650 €, dont 350 € de dons du restaurant Le Petit Gus suite à l'organisation d'une tombola. Le différentiel entre dépenses et recettes sera financé par la municipalité sur le budget annuel de fonctionnement alloué au centre de loisirs, à l'accueil jeune et à l'accueil jeune, pardon, et à l'enveloppe événementielle jeunesse. Le montant est estimé à 1502,50 €, soit 23,11% du prix de revient de séjour.
Merci. Donc, le conseil municipal, ayant oui l'exposé du maire et après en avoir délibéré, objet du vote, approuve le plan de financement du séjour de 5 jours, en Alsace à Bergheim, dit que les crédits correspondants sont prévus au budget principal 2018 de la commune. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Unanimité, je vous remercie. Je fais un petit commentaire justement, ce sont des délibérations auxquelles vous êtes familiarisés, tous les déplacements que font les jeunes sont financés en gros un tiers par la CAF, un tiers par la mairie, un tiers par les parents. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve là, à la différence près qu'il y a le président du comité jumelage qui est ici. Donc le comité jumelage a souhaité s'associer en donnant un financement complémentaire. Je pense que c'est une bonne chose. Bien, voilà, j'aurais fait voter, hein, donc c'est bon, merci. Le point suivant, urbanisme, c'est une opération par courrier en date du 10 janvier 2018. Monsieur Nouveau-Antoni et Madame Foubert-Émilie sollicitent la municipalité la cession d'un délaissé au niveau de la voirie du lotissement Saint-Étienne. La voirie du lotissement a été acquise par la commune de Courthézon par acte administratif signé en date du 24 mars 2017 et publié le 28 mars 2017. Monsieur Nouveau et Madame Foubert ont acquis les parcelles 196-197 afin de construire des habitations. Les permis accordés dans lotissement en vue de construire, il est envisagé de leur céder ce délaissé d'une contenance de 22 mètres carrés au prix de 2000 euros, soit 100 euros le mètre carré, afin de permettre à M. Nouveau et Mme Fourbert d'implanter leur clôture en alignement de la voie, ainsi de ne pas subir les nuisances telles que le dépôt d'encombrants de toutes sortes. Ce délaissé faisant actuellement partie du domaine public communal, il convient préalablement à toute cession d'en procéder d'en prononcer le déclassement et l'intégration dans le domaine privé. L'article du Code de la voirie routière modifié par la loi du 9 décembre 2004 dispense d'enquête publique les procédures de classement et de déclassement des voies communales dès lors qu'il n'y a pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par ces voies. En l'espèce, le déclassement de ce délaissé de voirie n'aura pas de conséquences sur la desserte et la circulation. Monsieur Nouveau et Madame Foubert prendront à leur charge les frais de géomètre et d'actes notariés sur ce dossier. Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la voirie routière, vu les nouvelles modalités de consultation du service des domaines, vu les permis de construire, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme qui s'est tenue le 10 septembre, considérant que cette acquisition permettra à M. Nouveau et Mme Foubert d'implanter leur clôture en alignement de la voie afin de ne pas subir de nuisance, le conseil municipal, ayant oui l'exposé du maire et après en avoir délibéré, objet du vote, constate la désaffectation de 22 mètres carrés de voirie, constate le déclassement du domaine public des 22 mètres carrés, autorise la cession au bénéfice de M. Nouveau et Mme Foubert au prix de 2000 euros, autorise le maire à signer l'acte administratif de cession, ainsi que tout document relatif se rapportant à ce dossier, rappelle que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de M. Nouveau et Mme Foubert-Émilie. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Le point 14. Benjamin, je propose de le rapporter, tiens.
Monsieur le maire, informe le conseil municipal que le 5 avril 2018, un procès-verbal a été dressé en application de l'article L480-1 du Code de l'urbanisme par un agent assermenté de la DDT à l'encontre de monsieur Bernard Jérémy, domicilié résidence le Y14B, chemin de Saint-Étienne, Bédarides, pour infraction aux articles L421-1 et suivants du Code de l'urbanisme réprimé par l'article L480-4 du même Code. Monsieur le maire précise par ailleurs que les articles L610-1 et L480-1 du Code de l'urbanisme permettent à la commune de se constituer partie civile dans ce genre d'affaires. Je vous laisse procéder au vote. Voilà. Vous souhaitez que je fasse quelques commentaires?
Oui, voilà, puisque tu connais bien le dossier.
Simplement, je dirais malheureusement, la commune est habituée aux agissements de Monsieur Jérémy Bernard. Concernant des infractions commises au code de l'urbanisme, sans refaire tout l'historique du dossier très rapidement, monsieur Bernard est propriétaire donc de terres situées chemin Saint-Laurent de mémoire et des terres qui sont destinées à des activités agricoles mais de plantation seulement. Monsieur Bernard a acquis ces terres, il a commencé par y faire une maison, purement et simplement. Donc la commune l'a prévenu, lui a dit attention, ça n'est pas conforme, il faut régulariser votre dossier en démolissant votre construction qui n'est pas encore achevée. Monsieur Bernard n'a rien voulu entendre et nous nous sommes retrouvés à la cour d'appel de Nîmes en 2012 qui a prononcé la condamnation de Monsieur Bernard. On croyait que le dossier allait s'arrêter là, néanmoins on retrouve ce dossier en 2015 puisque cette fois le contrevenant a décidé d'y ériger un hangar agricole. Donc là aussi la commune a prévenu, la commune a averti, attention, Monsieur Bernard n'a pas voulu entendre malheureusement et on s'est retrouvé devant le tribunal correctionnel en 2015, qui a donc condamné une nouvelle fois Monsieur Bernard à enlever ses constructions. Cette fois, cela concerne, c'est la DDT qui a adressé le procès-verbal d'infraction, donc ce n'est pas la commune mais les services de l'État, et qui aurait relevé, puisque nous ne sommes pas destinataires de ce PV dans le sens où il est couvert par le secret de l'enquête et de l'instruction, il aurait entreposé des épaves de véhicules. Donc, en réalité, on recommence une troisième fois une nouvelle procédure, un troisième acte d'une longue pièce de théâtre. Eh bien, le procès-verbal a été transmis au procureur de la République et nous, dans ce cadre classique, nous nous constituons partie civile dans les intérêts de la commune. Donc, nous rédigerons des écritures et nous nous rendrons à l'audience comme les deux fois précédentes. Je vous remercie.
Merci, Benjamin. Donc, je fais voter cette délibération. Le conseil municipal, il y a où l'exposé du maire, et après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à se constituer partie civile au nom de la commune dans l'affaire exposée ci-dessus. Je mets aux voix qui est contre. Abstention, unanimité, je vous remercie. Juste deux petits commentaires complémentaires. Le premier, c'est pour remercier Benjamin qui, en tant qu'élu, mais aussi avocat, nous rend énormément de services qu'il fait de manière gracieuse et c'est quelque chose qui colle dans le cadre de notre budget. Et puis regretter un petit peu que bon, chef de police est ici, c'est responsable de l'urbanisme, le nombre, ça a été très chronophage comme opération, pourrait espérer que des fois ça aille beaucoup plus vite dans les procédures. On a vraiment fait tout ce qu'il fallait, il a fallu des années pour réussir. Et vous savez, c'est pas facile d'expliquer aux voisins qu'on est actif, je comprends, hein, parce qu'il y avait des problèmes olfactifs, des problèmes de sur la route, de tout. Et bien, c'est quelqu'un qui a tenu tête pendant quand même pas mal d'années. Bon, aujourd'hui, on peut espérer que, bon, ça y est, il n'y a plus d'animaux là-bas, et à force de prendre des sanctions, il puisse se convertir vers d'autres métiers, ou surtout aller se localiser à un autre endroit plus adapté à son activité. Le dossier qui suit est un dossier d'urbanisme. Bah, je vais retravailler mes adjoints. Tiens, Jean-Pierre, tu veux le lire? Allez. Voilà.
Bien, donc il s'agit du lotissement des Jardins de Noélie. En date du 25 avril 2014, un permis d'aménager a été délivré pour la réalisation d'un lotissement de 21 lots, 6 chemin Louise Michel, au bénéfice de la SAS foncière Bama, représenté par M. Roblin Étienne. De manière à faciliter dans l'avenir la gestion de l'urbanisme dans ce lotissement, notamment la propreté urbaine, le ramassage des ordures ménagères, l'entretien des réseaux, il a été prévu que la voirie, les réseaux et l'ensemble des espaces communs soient rétrocédés à la commune au terme des travaux sous réserve de leur parfaite conformité aux exigences posées. Il convient donc, de manière à poursuivre la procédure d'intégration de ce lotissement et autoriser le maire à signer les actes de cession, à intervenir avec le lotisseur. La commune intègre dans son domaine les voiries qui sont construites par les lotisseurs, mais ne les intègre qu'après des vérifications techniques, et qu'après avoir vérifié que le cahier des charges des divers réseaux était parfaitement respecté. Tout ça dans l'intérêt de notre commune.
Merci Jean-Pierre. Donc, le conseil municipal, ayant oui l'exposé du maire et après en avoir délibéré, objet du vote, autorise le maire à signer l'acte de cession au bénéfice de la commune, rappelle que cette cession est consentie au prix de l'euro symbolique, dit que les frais connexes afférents à cette cession sont à la charge de la SAS foncière Bama, dit que ces espaces et équipements communs seront intégrés dans le domaine public communal, autorise le maire à signer toute pièce se rapportant à la présente délibération. Je mets aux voix, qui est contre.
Juste une remarque, Alain. Si
oui, vas-y.
Aujourd'hui, c'est une pratique courante. Ce système-là, on l'a vu avec la barade. Là, aujourd'hui, c'est les jardins de Noélie. On fixe un cadre, un cahier des charges. Le lotisseur respecte ce cahier des charges. Comme tu l'as souligné, Jean-Pierre, on récupère les voiries conformes. La commune qu'on transfère finalement à la CCPRO, puisque la voirie est la compétence CCPRO. Ça veut dire que demain, le courtaisonnet qui va s'installer dans ce lotissement, qu'on connaît pas mais qu'on accueille avec plaisir, il n'aura pas à se soucier de l'entretien de la voirie, de ce qui pourrait y arriver, ou que ce soit des espaces verts et tout ça. D'un autre côté, on a des courtaisonnets qui habitent ici depuis 40 ans, et il y a 40 ans, ces pratiques-là se faisaient pas. Ça veut dire que ces courtaisonnets, aujourd'hui, c'est eux qui supportent l'entretien des voiries, c'est eux qui supportent l'entretien des espaces verts, c'est eux qui vont supporter tout ce qui pourrait y arriver comme incident, accident, lors d'un déplacement piéton, d'un déplacement véhiculé, qui peut arriver dans leur voirie. Alors évidemment, tu n'es pas responsable de cette situation, parce qu'il y a 40 ans, tu n'étais pas maire, il y a 40 ans, c'est pas partie des pratiques. Il y a 40 ans, moi j'avais 6 ans, donc je me préoccupais pas de ces questions-là. Cela étant, je me dis aujourd'hui, je parle pour tout le conseil, est-ce que vous pensez pas qu'il serait peut-être temps que on se dise qu'on pourrait peut-être faire quelque chose pour ces courtaisonnets-là? Est-ce qu'il y aurait pas une réflexion à mener en disant, c'est vrai que si demain il y a un accident qui arrive dans votre voirie, finalement on n'est pas responsable, mais est-ce qu'on pourra se prévaloir de dire qu'on ne savait pas?
Je vais te répondre. Alors,
si tu décides, je sais que je reviens là-dessus, sur ce sujet, j'en ai parlé il y a déjà quelque temps, moi j'ai habité pendant 13 ans dans un lotissement privé, donc je sais les contraintes que ça impose. J'en reparle aujourd'hui parce que on a récupéré dans le domaine communal les voiries du lotissement Saint-Étienne, qui était un lotissement ancien aussi. Je ne sais pas si on a imposé avant de reprendre ces voiries dans le domaine communal des travaux de mise en conformité, mais on les a récupérés pour un intérêt qui est tout à fait louable, c'est de sécuriser le déplacement piéton pour amener entre la commune et la barade. Je ne reviens pas là-dessus, je suis à 100% d'accord. Cela étant, est-ce qu'on pourrait pas finalement se dire, oui, aujourd'hui, peut-être qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut faire un geste. Je dis pas qu'il faut reprendre les voiries telles quelles, mais est-ce qu'on peut pas rencontrer ces gens-là, faire un état des lieux, prendre en compte ce qui pourrait nuire à la sécurité des déplacements piétons, des déplacements véhicules, de dresser un cadre en disant, bon, ok, si vous faites ça, 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 on récupère. Est-ce qu'après 40 ans, est-ce qu'on n'a pas finalement en moralité quelque chose à faire là-dessus? Voilà, c'est une réflexion que je soumets pas qu'à toi, je soumets au conseil, à tout le monde, pour dire que peut-être que ça suffit. Voilà. Aujourd'hui, c'est des pratiques courantes pour des gens qu'on connaît pas et qu'on va accueillir. Est-ce que pour des gens que ça fait 40 ans finalement qu'on côtoie, est-ce qu'on pourrait pas faire un geste? Voilà.
Alors je vais te répondre de suite. C'est même pas moi qui te réponds, c'est la loi. La loi qui dit, lorsqu'on transfère une voirie privée à une commune, il faut qu'elle soit dans un état clean. C'est-à-dire qu'on peut pas rentrer dans un coquinage en disant, vous allez boucher un peu les trous, et puis nous derrière, on viendra, etc. La loi dit, voilà, et c'est quand même bien fait, même si je veux bien entendre le côté des fois un peu humain, mais je connais plusieurs personnes, ça s'est fait, ça se fait encore. On veut éviter que de se dire, eh bien tiens, moi j'ai un terrain, je construis, parce que ce qui coûte très cher, c'est justement ça, c'est d'arriver à faire des voiries avec le pluvial, l'eau, l'assainissement, etc. Ça coûte très cher. Bon, il y a beaucoup de gens qui font l'inverse. Ils ont intérêt, ils y mettent des villas. Voilà. Et puis après, donc le villa, c'est bon. Ils les vendent, ils les louent. Et après, monsieur le maire, mes voisins, mes locataires, ils sont dans le gravier, ils sont dans la boue. Ah non. Attendez, vous avez pris le bon, il fallait peut-être prendre aussi le moins bon. Parce que c'est quelque chose, mais moi, mère, je l'ai vécu. Bon, et je me souviens, au moment où on avait Sorg, qui était dans notre interco, ils ont 40 lotissements. Sorg, où la voirie, elle est privée. Et où le maire de Sorg disait, il faut l'incorporer, incorporer la CCPRO, mais on avait fait chiffrer ce que ça représentait, on était dans le délire le plus total. Donc, on n'est même pas dans le côté discussion. On peut parler d'un cas concret, puisqu'on l'a vécu, comment il s'appelle la route qui... au cimetière, là. L'avenue René Char, la rue René Char. Bon, c'est un chemin privé. Bon, j'ai reçu X fois les riverains qui m'ont dit, monsieur le maire, écoutez, voilà, il y a des gens qui passent... faut avoir envie d'aller là-bas, ma fille. Et ils m'ont dit, mais pendant la fête votive, les gens passent par là. Nous, on détourne pas du tout par là-bas. Bon, alors ils m'ont dit, nous, on est là, goudronnez-nous. Ça fait X fois que je leur dis, écoutez, je n'ai pas le droit. Bon, j'ai dit, moi, je peux vous faire avoir des tarifs compétitifs, puisque nous travaillons avec des entreprises, et que ces entreprises travaillent avec nous, on peut leur dire, faites un effort pour... Et puis voilà, s'ils sont une vingtaine de riverains, ça vous fait... par personne. Bon, ils l'ont pas voulu. À un moment, ils m'ont dit, monsieur le maire, si c'est comme ça, on barre la route. J'ai dit, parfaitement, vous avez parfaitement le droit de barrer la route. Mais je leur ai dit aussi, c'était pas moi, mais je les douane a fait, la mairie est pas à jour, parce qu'on vous a mis de l'éclairage public, qui est dans le privé. Donc, avant que vous fermiez la route, je vais devoir enlever l'éclairage public. Et ils m'ont dit, on préfère regarder l'éclairage public. Ils ont mis un panneau, et voilà, ils ont mis réservé aux riverains. Ils ont raison, voilà. Mais encore une fois, le percepteur n'accepterait même pas de payer. La question, elle est là. Réglementairement, ce sont des opérations qui ont été faites. La seule solution, je leur ai dit, si vous faites un effort, on va pas être trop exigeant. Bon, casser un lotissement neuf, on l'est, parce que plus ou moins, ils ont de la monnaie, puisqu'ils ont voulu faire une opération. Casser quelque chose comme ça, je leur dis, si vous arrivez à me faire quelque chose de correct, moi derrière, je reprends. Mais ils me disent, on veut bien, mais sur, mettons, 20, il y en a 3 qui veulent payer, 3 qui veulent pas. Bon, j'ai dit, s'ils veulent pas, ça les regarde. Mais voilà, là, la question ne se pose même pas. Genre, tu vois, c'est même pas une question d'appréciation, de bonne volonté et tout. C'est comme si tu me disais d'aller repeindre ton plafond chez toi. Voilà, c'est aussi simple que ça. On est dans le domaine privé et la loi nous empêche de faire une opération dans le domaine privé. Et elle nous dit, vous pouvez intégrer le domaine privé à condition que ce domaine privé ait été mis dans les normes de... Voilà, les normes qui sont de conditions normales d'une voirie normale. Voilà. On avait voté ou... Pardon ? On n'avait pas voté. Donc.
Non, mais je... Pour résumer ta réponse, j'en conclus que les voiries du lotissement Saint-Étienne sont conformes à la loi.
Les voiries du lotissement Saint-Étienne sont conformes à la loi. Je mets aux voix, alors, qui est contre ? Abstention ? Unanimité, je vous remercie. Lotissement et la Barade. Tu veux le faire aussi, Jean-Pierre ? C'est ton bébé, ça, la Barade.
C'est un gros bébé. Donc, c'est plutôt du caractère administratif, du caractère urbanistique. Alors, donc, un permis d'aménager, le PA numéro, au bénéfice de la société Evolim, représentée par M. Thur Alain, a été autorisé en date du 28 avril 2014 afin de réaliser un programme de 308 logements répartis en 77 lots libres de constructeurs et 9 macro-lots. Par délibération numéro 2014-015 du 20 février 2014, une convention de projet urbain partenarial, PUP, a été approuvée entre la société Evolim et la commune de Courthézon afin de permettre la réalisation des équipements communs au vu de l'assiette foncière du projet. Alors, 9 macro-lots de l'opération ont été déposés par la société AST Promotion, représentée Monsieur Thur Alain. Donc c'est des macros qui vont de A à G. Et ces macros ont fait l'objet d'un transfert du permis de construire au bénéfice de la SNC La Barade, filiale de la société Evolim AST Group. La convention de rétrocession des voiries et espaces verts ne visant que la société Evolim. Et au vu de ce qui précède, il convient d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents relatifs aux avenants, un par macro-lot, donc ça en fait un paquet, envisagé en vue de modifier le nom de l'aménageur et y ajouter de nouveaux engagements de l'aménageur. Donc, pour résumer, on a signé avec une entité administrative, elle a changé de nom, donc il nous faut re-signer quelque chose avec le nouveau porteur. Ça n'empêche pas que les choses sont réalisées. Donc on rajoute à ce qui avait été prévu précédemment, qu'ils prennent à leur charge l'entretien et la garantie des espaces verts, à savoir les végétaux, plantes tapissantes et massifs d'arbustes plantés, y compris leur arrosage et taille pour une durée de 1 an à compter du 31 juillet 2018. C'est la date où on a constaté la fin l'achèvement des travaux. Et de aussi procéder à l'entretien des parties de sol, l'entretien des paillages, des gazons et mélanges fleuris pour une durée de 1 an à compter toujours du 31 juillet 2018. Donc, vu les délibérations, vu le permis d'aménager, vu la convention, il est demandé d'autoriser Monsieur le maire. Il va vous dire la suite.
Voilà, merci. Donc, le conseil municipal a voulu exposer du maire, son adjoint, et après en avoir délibéré, objet du vote, autorise le maire à signer des avenants à la convention de rétrocession voirie espace vert entre la société SNC La Barade et la commune de Courthézon, ainsi que tout autre document relatif à cette opération. Je mets aux voix qui est contre. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Eh bien, bien sûr.
Vous avez noté, le PUP a été signé en 2014. On est pratiquement fin 2018 et nous aurons encore des couvertures administratives jusqu'en fin 2019. Simplement pour souligner les lenteurs, les lourdeurs, les difficultés liées à l'aménagement urbain.
Merci Jean-Pierre. Donc le point suivant, le point 17, je disais un peu en début de séance, je le retire pour une simple raison, c'est que bon, il s'agit d'une opération de transaction pour laquelle nous avons demandé l'évaluation des domaines et on l'a pas obtenu. Donc là, c'est réglementaire, on ne peut pas prendre une décision lorsqu'on achète un bien sans nous baser sur l'évaluation des domaines. Donc, ça sera inscrit au prochain conseil municipal. Les décisions du maire, il y en a quelques-unes. Donc, première, maîtrise d'œuvre pour la construction d'une crèche multi-accueil société Portail Tessier Architecte à Castelnau pour 3000 euros. Ensuite, maîtrise d'œuvre pour la construction d'une crèche multi-accueil, toujours l'architecte pour 4 944 euros. Ensuite, inventaire patrimonial du réseau AEP de la commune Euriès Saint-Paul-Trois-Châteaux pour 35 820 euros. Ensuite, mise à jour du zonage d'assainissement de la commune Euriès pour 10 110 euros. Puis, contrat arpège relatif à la protection des données à caractère personnel. Ça c'est la société Saint-Sébastien-sur-Loire, sans frais supplémentaires. Ensuite, modification d'une régie de recettes pour le service culturel. Visée en préfecture, reprise et modification de l'arrêté de recettes pour le service de la police municipale. Puis, désignation d'un avocat pour représenter la commune à justice dans l'affaire de l'association Grange Blanche, Maître Berger, Avignon, pour 4 320 euros. Puis, désignation d'un avocat pour représenter la commune dans l'affaire Consort Abeille, Maître Berger pour 3 360 euros.
Monsieur le maire, excusez-moi de vous interrompre, si je peux faire un petit commentaire.
ce sont des contentieux dans lesquels la représentation par avocat est obligatoire et donc je ne peux pas intervenir. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on prend ces décisions-là. Excusez-moi. Voilà.
J'attendais de finir, mais j'allais le signaler. Tu as bien raison. Tout à l'heure, je signalais toutes les actions que tu as, mais il y a des moments où on n'a pas le choix et donc on passe par un avocat. Tu as tout à fait raison. Ensuite, désignation, donc c'est dit. Ensuite, avenant, contrat de maintenance de l'ensemble du parc photocopieur pour le remplacement du matériel. Marché de restauration du clocher de l'église Mariani qui est retenu pour 241 094 euros. Chantier qui va démarrer prochainement. Et puis, acceptation et remboursement sinistre pour le portique anti-gabarit. Vous avez dû remarquer, donc, assureur Groupama pour un montant de 3698,62 €. Voilà. Merci, Marité. Bien. Donc, j'en ai terminé à les décisions. Je laisse, oui, allez-y.